ressenti beaucoup, beaucoup d'émotions dans ce culte. Au point qu'à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'il faut s'arrêter? Alors ça, c'est la paresse du prédicateur, qui dit, il vaut peut-être mieux continuer le culte. Et donc j'ai quand même pensé que vous seriez dit, c'est la solution de facilité. Mais j'étais tellement émotionnellement bien dans ce culte. Et ça, on le doit à vous tous, à Aurélien, qui a fait une très bonne introduction dans sa présidence, à ce groupe de musique extraordinaire qui nous a conduits, à chacun d'entre vous qui avait proposé exactement le cantique, je veux dire, qui était approprié. Et au moment où je voulais moi-même prier, quelqu'un d'autre priait, disait les mots que je voulais dire. C'est frustrant. Non, c'est pas frustrant. Parce que c'est comme ça que l'Esprit de Dieu agit. Il n'y a pas de frustration. Et donc j'ai quand même réussi à louer Dieu, au bout du compte, à m'insérer dans vos louanges. Mais c'est un bonheur quand c'est comme ça. Et puis je n'ai pas non plus été impressionné par le fait que le tableau, un des trois cadres que j'avais un jour mis dans l'église, s'est effondré ce matin. Vous savez, ça pourrait être dans les églises, s'il y a de la superstition dans le monde, vous pourriez dire, oh là là, c'est un mauvais signe. Non, c'est simplement le signe que la mécanique, vous savez, ce qui porte le tableau, à un moment donné, n'est plus assez solide, assez résistant. Donc je ne le prends pas mal. Je suis déjà tellement content qu'ils aient duré aussi longtemps. Donc si vous allez en profiter pour refaire aussi la déco, sentez-vous libre. Alors, dans notre communauté, on essaie toujours de planifier un peu les enseignements, non pas qu'on ne cherche pas la direction du Saint-Esprit, mais on se dit, qu'est-ce qui pourrait faire du bien à la communauté, faire du bien à l'Église? Et on a pensé que juste avant Pâques, ce serait bien de commencer une série qui s'appellerait « Suivre Jésus ». Et tout en parlant, quand on avait commencé à débattre un peu sur les thèmes, il m'est venu à l'esprit que peut-être avant qu'on commence à suivre Jésus dans les évangiles, ce serait bien qu'on le suive partout où il est. Ailleurs dans la parole de Dieu. C'est pour ça que ça s'appelle « Suivre Jésus partout dans la Bible ». C'est vrai que quand on pense à Jésus, souvent on a des flashs comme ça. On l'imagine faisant sa bar mitzvah, donc à 12 ans, dans le temple. On l'imagine tenté par le diable, baptisé par Jean-Baptiste. On le voit prier sur la montagne, prier le soir, prier le matin. On le voit choisir ses disciples, on le voit déambuler, faire tous ses discours extraordinaires et aussi, je dirais, réaliser tous ses miracles. Ressusciter des morts. On le voit aller vers Jérusalem, on voit qu'il est rejeté, on a rappelé tout cela avec la scène, il est crucifié, mais il est ressuscité avec puissance. Et puis, on sait qu'il revient, il est monté au ciel et on sait qu'il revient. Mais voilà, souvent, notre histoire avec Jésus s'arrête là. C'est tout ce que nous connaissons de lui. Et je me suis demandé, est-ce que c'est tout ce que nous aimons connaître de lui? Est-ce qu'il n'y a pas plus de choses à connaître de Jésus? Ce Jésus homme, il nous arrange bien, c'est Dieu avec nous. C'est le bon ami, c'est le fidèle, c'est le bon berger, celui à qui on peut tout dire. C'est celui qui correspond à nos limitations d'être humain. Mais quand on regarde l'intégralité de la Bible, on se rend compte qu'il est bien plus que cela. Bien plus que cela. Que faut-il penser de l'Apocalypse? Ça, c'est pas un livre dans lequel on aime aller. Dont le titre, c'est la révélation de Jésus-Christ. Dont les derniers versets parlent de Jésus-Christ. Que la grâce de Jésus-Christ soit avec vous tous. Que faut-il penser de l'Apocalypse où le Seigneur nous est décrit au chapitre 1, certes comme un fils d'homme, mais dans une gloire tellement terrifiante que l'ami intime de Jésus, Jean, pense qu'il va en mourir rien qu'en voyant cette gloire. Que faut-il penser de Genèse 1:1 où il est dit « au commencement Dieu » mais vous savez qu'en hébreu, Dieu c'est un pluriel, c'est Elohim, donc c'est Dieu en trois personnes, donc Jésus est dedans, « au commencement Dieu dont Jésus créa le ciel et la terre ». Le ciel et la terre. Est-ce qu'on ne voit pas que la Bible entière est imprégnée de la présence de Jésus, qu'il en est le début, qu'il en est le centre et qu'il en est la fin? Et c'est vrai que parfois on a une piété qui n'est pas rythmée par autre chose que les bons livres qu'on découvre dans les bibliothèques chrétiennes. Et moi j'ai fonctionné comme ça à un certain moment dans ma vie. Je trouvais un bon livre, ça me boostait. Les 9 clés de la maturité spirituelle, les 10 principes pour faire un bon leader, les 1500 qualités qui feront de vous un bon mari chrétien enfin apprécié de sa femme. Non, celui-là, je ne l'ai pas lu. Mais ma femme me le conseille souvent. Mais si votre vie chrétienne se résume à ça, alors il est temps de revenir à Jésus. Et peut-être que, je dirais, si vous êtes en train de suivre un orateur ou un autre chrétien ou en réunion qui vous répète une énième fois que vous devez renoncer à vos mauvaises habitudes, passer plus de temps dans le combat spirituel, avoir plus de foi, moins vous inquiéter, donner plus, souffrir plus, faire plus, être plus. Alors je ne dis pas que ces choses-là sont mauvaises, mais peut-être que pour l'essentiel, il est temps de revenir à Jésus. Si d'autres croyants bien inspirés vous témoignent de façon écrasante de leur aptitude à prier toute une nuit, à jeûner comme Jésus pendant 40 jours, à amener une foule de gens au Seigneur, ne vous laissez pas impressionner, mais revenez simplement à Jésus. Jésus s'est adressé aux hommes les plus religieux de son temps, et qu'est-ce qu'il leur a dit ? Il leur a dit ceci dans Jean 5, au verset 39, il dit « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Aujourd'hui, en tant que chrétien, on fait face à deux pièges. Deux pièges qui nous voilent la relation, je dirais, in extenso. In extenso, ça veut dire, c'est une relation en entier, une relation endurante et profonde que nous pourrions avoir chacun avec Jésus-Christ. Et c'est l'ambition de Dieu pour nous, que nous venions à Jésus pour avoir la vie. Le premier piège, c'est la distraction. Nos yeux, nos esprits sont tout le temps accaparés par une série de choses qui nous le masquent tel qu'il est. Hier, j'ai fait une expérience, à un certain moment, je me dis, je vais relire les notes de mon message. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, j'avais l'intention de prendre mon portable à côté de moi. Je me dis, mais Yves, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas te laisser distraire. Notre connexion est ailleurs qu'en lui. Bien souvent, notre attention est dérivée par ce qui domine notre vie. Les désirs inassouvis qu'on a à l'intérieur du cœur, les peurs, légitimes ou non, qui nous hantent, les relations auxquelles nous aspirons, les objets dont nous avons besoin, les problèmes qui nous accaparent. Et c'est un pasteur qui s'appelle Wayne Cordero, c'est un pasteur de l'église New Hope, il a dit « Notre plus grand problème, ce n'est pas ce qui nous combat, c'est ce qui nous distrait. » C'est ce qui nous distrait. Deuxième piège, c'est la contrefaçon. C'est le mensonge de Satan à l'égard de notre vie spirituelle. Alors sur le mensonge, je vous raconte une petite histoire. C'est quatre étudiants très brillants qui devaient passer un examen le lundi. Et comme ils sont brillants, ils se sont dit « Bah, ça va, on est assez capable, on a assez étudié. » Donc ils font la fête. Comme ça, c'est aussi, ça fait partie parfois de la vie d'étudiants. Ils font tellement la fête qu'ils passent la nuit du dimanche, ils n'arrivent pas à se réveiller pour l'examen, tout penaud. Ils se présentent quand même l'après-midi auprès du professeur en disant « Écoutez, monsieur le professeur, on aurait bien voulu venir à l'examen, mais on est loin, effectivement. » Et la voiture a crevé. Le professeur dit « C'est pas grave, demain matin, vous représenterez l'examen. » Bon, puis ils se mettent à étudier quand même, ils font ça sérieusement. Et le lendemain matin, ils se présentent. Et il y a un questionnaire, mais ils sont chacun dans des salles séparées. Quatre salles. Et sur la première phase du questionnaire, il y a un premier problème. Et ça vaut pour 5 points. Ils disent « Chouette, waouh, c'est facile, ils sont contents d'avoir étudié. Wow. » Et puis ils retournent le questionnaire, et là, il y a une question sur 95 points. « Quelle est la roue qui a crevé ?» Vous voyez que le mensonge, je veux dire, n'est jamais récompensé. Et la Bible parle de notre ennemi, le diable, comme le père du mensonge. Et un de ses mensonges préférés, c'est de nous faire croire que notre piété doit être compliquée, qu'elle doit être sophistiquée pour plaire à Dieu. Il veut nous convaincre que la véritable consécration à Christ, c'est tellement difficile que la plupart des personnes ne peuvent pas tenir plus de 2 semaines dans leur bonne résolution. Et on a fait cette expérience, quand on sortait, je veux dire, d'un grand mouvement, d'un camp, etc. Et on prenait des grandes résolutions avec le Seigneur, et puis 2 semaines après, patatras. On priait plus, on lisait plus sa Bible, toutes ces choses-là. On n'osait plus témoigner. Et le diable, il préconise une façon monastique de vivre sa foi, dépourvue de plaisir et remplie de règles. Et vous savez, c'est facile de confondre la vie spirituelle et l'activité spirituelle. On aime mesurer nos progrès dans la foi en fonction de ce que nous faisons. Notre assiduité aux réunions, le nombre de fois on a lu sa Bible en entier, le temps qu'on donne bénévolement à l'Église, l'argent que nous donnons pour les œuvres, tout ça c'est un mauvais instrument de mesure. Vous savez, j'étais étonné, hier ou avant-hier, je lis beaucoup de plans de lecture dans YouVersion. Vous connaissez YouVersion ? Les jeunes connaissent ça, c'est vraiment la plus grande application au monde, avec toutes les traductions de la Bible possibles et imaginables dans toutes les langues, et des plans de lecture à l'infini, en français, en anglais. Ils sont extraordinairement bien faits. Je veux dire, c'est une application qui a peut-être 120 millions aujourd'hui d'abonnés. Et alors j'ai eu un badge. J'ai eu un badge, très américain. Mais parce que j'avais fait un plan de 21 jours. Et donc je vois ça, je dis à Yves, tu as un badge parce que pendant 21 jours, tu as lu ta Bible. Et je dis, est-ce que ça dit quelque chose de bien de moi? Je me suis dit, non, ça ne dit pas quelque chose de bien de moi, parce que je n'ai pas lu ma Bible tous les jours des 21 jours. Bah, je ne dis pas que je n'ai pas passé beaucoup de jours, mais ça m'est arrivé. Donc c'est trompeur. Si on commence à mesurer notre vie spirituelle et notre activité spirituelle. Quelqu'un a dit, c'est un pasteur du 19e siècle, la force d'un homme, ou d'une femme bien sûr, consiste à découvrir la voie que Dieu emprunte, ça pourrait s'arrêter, pour l'emprunter à son tour. Et Jésus disait la même chose, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Ça a toujours été une énigme. J'en ai déjà parlé de ce verset à Jumet il y a des années. Ce verset, c'est vraiment une énigme parce que je me dis, on peut servir Jésus sans le suivre. Jésus perçoit ça bien de tous les religieux qui se disent servir Dieu, mais qui ne suivent pas Jésus. Et peut-être on suit Jésus comme les disciples d'Emmaüs, c'est-à-dire que Jésus est à côté de nous, mais on ne s'en rend pas compte, on ne le voit pas tel qu'il est. Et alors il faut que Jésus fasse ce qu'il a fait aux disciples d'Emmaüs. Dans le texte de Luc, il est dit, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Ce qui le concernait. Et c'est un peu l'ambition de ce message, créer cette envie de suivre, de découvrir, de servir Jésus dans toutes ses dimensions. Alors c'est pourquoi je vais vous proposer de suivre Jésus, pas dans toutes ses dimensions aujourd'hui, on va faire des choix. On est obligé de faire des choix. Si je disais que je pouvais vous parler de Jésus en un seul message, quel imposteur ! Quel imposteur ! Hein ? Alors on ne parlera pas de Jésus, le roi des Juifs et des nations. On ne parlera pas de Jésus, l'agneau de Dieu, le serviteur souffrant, le fils de Dieu, le fils de l'homme, l'homme parfait, le sauveur du monde, le souverain sacrificateur, le grand prêtre, le maître, le rabouni, le prophète, le médiateur. On ne parlera pas de tout ça. Mais qu'est-ce qui reste ? Eh bien, il en reste. On va seulement donner trois aspects de la personne de Jésus. Le premier, c'est la parole. Jésus, la parole créatrice et éternelle de Dieu. Quand le Nouveau Testament, vous connaissez tous un peu de mémoire l'ouverture quelque part de l'évangile de Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et quand on voit ce prologue de l'évangile de Jean, Jésus-Christ est nommé parole de Dieu, et on prend conscience de deux choses dans ce prologue. D'abord, Jésus préexiste. Avant même de venir s'incarner, de naître d'une femme, il préexiste. Et puis deuxièmement, si vous lisez bien le prologue, on voit son rôle actif dans la création de l'univers. Jésus, parole créatrice. Et ça peut nous surprendre parce qu'on a souvent une dimension compartimentée du rôle de Dieu. Le Père est le créateur, le Fils est le sauveur, Saint-Esprit c'est l'accompagnateur quelque part, le compagnon de route. Et on a l'impression que chacun reste dans son rôle. Mais l'apôtre Paul confirme le prologue de Jean, il dit, c'est en Colossiens 1, c'est en Christ, que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant tout, préexistence, et c'est en lui que tout se tient, et on a lu avant la création. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux dit la même chose, Dieu nous a parlé par le Fils, il a fait de lui l'héritier de toutes choses, au chapitre 1, c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Donc quand on se place chaque année dans la nuit de Noël à Bethléem, la seconde personne de la Trinité, Jésus, n'a pas surgi du néant quand Marie l'a enfanté. Il était de toute éternité. Et ça avait terriblement choqué les religieux de son temps quand dans l'évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 58, il leur dit « Avant qu'Abraham fût, je suis, je suis ». Et ils savaient très bien ce que ça voulait dire. Il affirme sa préexistence, sa divinité, son éternité. Philippiens 2 dit aussi, lui qui était vraiment divin, ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en devenant semblable aux humains. Il s'est vidé de lui-même. Et alors, c'est sans équivalent. Dans aucune religion, l'enseignement concernant l'existence du Fils auprès du Père avant la création du monde, et bien sûr avant son incarnation, c'est une des affirmations clés concernant la divinité de Jésus-Christ. Si nous devons discuter, par exemple, avec des témoins de Jéhovah de la divinité de Jésus-Christ, on peut leur parler de cette préexistence de Jésus. Ainsi, quand Jésus devient homme, quand la parole devient homme, il y a une continuité. Il y a une unité entre le fait qu'il est la parole créatrice d'une part, et en même temps que cette parole va sauver l'humanité. Ces deux miracles que nous, on envisage souvent comme des réalités étrangères l'une à l'autre, mais elles sont tout à fait unies, conjointes. Le rôle du Christ dans la création nous fait prendre conscience de l'extraordinaire puissance qui a été mise en œuvre pour notre salut. Le rôle du Christ dans notre rachat, je veux dire, nous fait comprendre que celui qui nous a aimés, celui qui a livré sa vie pour nous, c'est celui qui, dès les origines, a appelé toute chose à l'existence. C'est celui-là même qui est aussi venu pour nous sauver. C'est encore lui, la parole de Dieu, qui sera triomphante à la fin des temps. Et dans l'Apocalypse 19, il est dit ceci là-dessus. C'est Jean qui regarde, il dit « Je vis le ciel ouvert et voici, il y avait un cheval blanc, son cavalier s'appelle fidèle et véritable. Il juge avec équité, il combat pour la justice, il porte un nom gravé qu'il est seul à connaître, il est vêtu d'un manteau trempé de sang, il s'appelle la parole de Dieu. » Il s'appelle la parole de Dieu. C'est pas évident de concevoir Jésus comme ça, au début, à la fin, dans son éternité, dans sa préexistence. Pas évident de concevoir Jésus comme un Dieu hors du temps aussi et de l'espace. Et il y avait un enseignant qui s'appelle Divorne Franke. Il a écrit de nombreux ouvrages d'un point de vue centré sur Dieu et pas sur l'homme. Et pour aider ses lecteurs à saisir la relation qui nous unit dans le temps avec ce qui est éternel, donc avec le Dieu éternel, il compare la relation, je veux dire, que Dieu a avec nous, avec la relation d'un lecteur avec les événements racontés dans son livre. Bien que le lecteur vive dans un domaine absolument différent des circonstances qui se succèdent dans sa lecture, dit-il, il s'y projette. Pensez un peu, chaque fois, la dernière fois que vous avez lu quelque chose, un roman ou votre Bible en tout cas, il s'y projette et vit l'histoire comme s'il y était lui-même. À mesure qu'il avance dans sa lecture, certains incidents glissent dans le passé, d'autres arrivent dans le présent et d'autres sont encore dans le futur. Mais quelle que soit la page où il est, les événements sont tous présents. Et pour lui, il se passe au moment où il les lit. C'est pas mal comme image. C'est ainsi qu'on peut avoir une image de l'action de Dieu, du Dieu éternel dans l'histoire des humains. Et puis le Christ est une parole aussi qui se communique, parce qu'en Jésus-Christ, Dieu parle, bien sûr. Dieu communique, il entre en relation, il se donne à connaître. On sait que la parole, c'est le moyen de communication par excellence. Mais Dieu, par sa parole, Jésus, fait plus que simplement dire. Il se communique. Ce qu'il communique, c'est lui-même. Dans l'Ancien Testament, il y a souvent une confusion quand vous voyez l'ange du Seigneur ou l'ange de l'Éternel et le Seigneur lui-même, l'Éternel lui-même. On pense, il y a beaucoup évidemment d'auteurs, de théologiens qui vont dans ce sens, que chaque fois qu'il est dit l'ange de l'Éternel, qui apparaît notamment à Abraham en Genèse 18, à Moïse en Exode 3 ou à Gédéon par exemple en Juges 6, c'est Jésus lui-même qui se montre. C'est Jésus lui-même qui est là. Et donc, Dieu se communique dans l'Ancien, bien sûr, dans le Nouveau Testament. Il s'incarne en Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth qui est totalement Dieu. Prologue de Jean, la parole était Dieu, sans être la totalité de Dieu. J'aime cette interprétation. Jésus est totalement Dieu sans être la totalité de Dieu. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Mais elle était auprès de Dieu. Vous voyez qu'on comprend. Si vous devez un jour, moi ça m'a éclairé vraiment l'esprit, Jésus est pleinement Dieu, totalement Dieu, sans être la totalité de Dieu. Et puis le Christ, c'est la parole dernière. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il l'a introduit, on a déjà lu tout à l'heure, il dit « Bien qu'autrefois, à bien des reprises, de bien des manières, Dieu a parlé aux hommes, au Père, par les prophètes. » Il dit cela. Ça veut dire qu'au travers de ces interventions miséricordieuses, miraculeuse, au travers des apparitions de Jésus sur la terre comme l'ange de l'Éternel, au travers des symboles que l'arche était, que le tabernacle était, Dieu a permis à Israël d'avoir une perception de son être et de sa nature. Mais, ça c'était l'introduction de l'Épître aux Hébreux, mais juste après, l'auteur dit, « Mais Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. » Il ne nous parle plus par des symboles, il ne nous parle plus par des apparitions éphémères. Il nous parle, il se communique, c'est Dieu qui vient dans la personne de son Fils. Et c'est intéressant ce passage, ce verset, parce que ces jours que nous vivons, dit l'auteur, sont les derniers. Et cette parole de Dieu, le Fils, c'est la parole dernière. Que voulez-vous que Dieu ajoute de plus quand sa parole, c'est elle-même faite l'un de nous, est venue mourir pour nous? Que voulez-vous que Dieu ajoute de plus pour nous faire comprendre non seulement sa pensée, mais sa personne elle-même? Tout ce qu'il est possible de comprendre dans nos esprits qui, honnêtement, sont limités, tout ce qu'il est possible de comprendre au sujet de Dieu, nous est révélé en Jésus-Christ. Jésus-Christ, la parole. Et puis Jésus-Christ, aussi brièvement, c'est le Messie. C'est le Messie. Pourquoi le Messie? Parce que le Messie, c'est le Christ, en fait. Le Christ, c'est le mot grec qui a été traduit, je dirais, de l'hébreu, Machia, Messie. Ça veut dire « oint », celui qui a reçu l'onction. Et dans l'Ancien Testament, un Machia, un oint, c'est un homme que Dieu a choisi pour lui confier une mission particulière auprès du peuple. Il est revêtu d'une force et d'une autorité divine par le Saint-Esprit. Il est loin. Et c'était valable pour les prêtres, comme Aaron, qui a été, je dirais, choisi de cette manière, ou Élisée, qui a été choisi, ont versé de l'huile sur leur tête. C'était le symbole du choix et de la présence de l'Esprit. Mais l'onction, dans l'Ancien Testament, elle est avant tout accordée au roi. Dans la mesure, ils sont reconnus comme les représentants du pouvoir divin. Comme David, quand Samuel vient dans sa famille, va chercher le petit dernier qui est toujours au champ et qui loin comme roi d'Israël. Alors, vous parlez des prophéties concernant le Messie dans l'Ancien Testament, c'est impossible tellement il y en a. Rien que dans les psaumes, il y a 25 psaumes qui sont dits messianiques. Ça veut dire qui annoncent la venue de Jésus, le Messie. Et beaucoup de ces psaumes sont cités dans le Nouveau Testament comme s'étant accomplis en Jésus-Christ. Si vous prenez le livre d'Ésaïe, Ésaïe, c'est ce qu'on appelle le cinquième évangile. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a des prophéties sur Jésus à toutes les pages, mais il y a beaucoup de prophéties sur Jésus. Hein? On connaît Ésaïe 53, mais il y a bien d'autres textes. Et je dirais, quand Paul prêche dans la synagogue de Thessalonique, dans Actes 17, il s'adresse à un auditoire, je dirais, qui est constitué principalement de juifs, et il dit ceci: ce Jésus que je vous annonce, c'est lui le Messie que vous attendez depuis si longtemps. C'est lui le Messie. Et Jean conclut son évangile en disant, à la fin, Jean 20, ces signes sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. Et c'est Pierre qui dit à Jésus, il se jette au pied de Jésus, il dit, tu es le Christ, tu es le Messie. Tu es le Messie. Mais auparavant, Pierre a dû être conduit à Jésus par André, son frère. Et qu'est-ce qu'André dit à Pierre pour l'amener à Jésus? On a trouvé le Messie. On a trouvé le Messie. Alors, est-ce que le titre de Messie, est-ce qu'il est à usage exclusif de la prédication juive? Eh bien, non, absolument pas, parce que très tôt, le titre de Messie a été traduit en grec par le mot Christos. Et vous vous rappelez, dans Actes 11, à Antioche, les croyants se voient affublés pour la première fois d'un sobriquet. C'est plutôt une sorte de manière de se moquer d'eux. C'était les Christianoi, c'est-à-dire les petits Christs, les petits messies. Si on devait traduire ça, on devrait dire les messianistes, les petits messianistes, un petit peu comme ça. Et qui a donné le nom de chrétien, bien sûr, Christianoi. Et ce nom, nous le portons avec fierté aujourd'hui. Alors bien sûr, Israël, c'est un peuple mis à part pour Dieu, mais il n'a pas une destinée inverse de l'ensemble de l'humanité. C'est un peuple qui vit, quand on lit la Bible, on le voit, il vit plus intensément que les autres le drame du péché. Hein, péché, retour à Dieu, péché, retour à Dieu, péché, retour à Dieu. Et bénéficie de la même miséricorde de Dieu. Mais si Israël avait aperçu, avec une acuité l'urgence de l'intervention de Dieu par le Messie, eh bien le monde a besoin de cette même intervention urgente. Le monde a cette même aspiration à un libérateur. Ce n'est pas seulement réservé aux Juifs. Toute l'humanité soupire et souffre à l'affût d'un libérateur. Vous savez, les gens sont en train de perdre la boule. Alors on mangeait un petit plat au restaurant grec vendredi avec Brigitte, et il n'y avait pas de place, et puis le patron qui nous reconnaît, il nous a donné juste la table à côté du grill, mais c'était vraiment juste à côté. Mais comme lui, c'était le patron, il faisait toute tournée brochette, il a commencé à nous parler. Et tout son discours, c'était de dire, quelque part, j'aspire à ce que l'extrême droite vienne un peu mettre de l'ordre dans la vie de ce monde. Je me dis, waouh, mais c'est fou, quoi. Il y a une aspiration telle que les gens sont prêts à faire venir n'importe quoi pour les diriger. Nous sommes victimes de faux dieux, de l'esclavage religieux ou idéologique de ce monde. Les promesses sont sans cesse trahies. Les hommes désespèrent d'une vraie délivrance. Comme les juifs, les non-juifs sont loin de vivre la beauté de leur vocation humaine. L'humanité a perdu de vue la plénitude du projet de Dieu. C'est ce projet de Dieu qu'on a rappelé ce matin. L'adorer, lui rendre gloire, c'est ça le projet de Dieu. C'est ça le projet de Dieu. Mais est-ce que Dieu a abandonné son peuple? Voilà, il y a ces aspirations, il y a tous ces événements qui se passent dans le monde et qui nous font parfois, je dirais, qui nous troublent. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Dieu n'a pas renoncé à ses promesses. Il n'a pas non plus renoncé au salut des nations, ni laissé tomber les humains qui sont faits à son image. C'est pourquoi le Messie des Juifs, c'est aussi le Christ des nations. C'est aussi le Christ pour nous. Ce Messie-ci, Christ, il a reçu de son Père la mission de rendre libres les Juifs et aussi les non-Juifs de la puissance de l'occupant. Alors, ce n'était pas la Rome d'autrefois, c'était ça que les Juifs attendaient. Mais il y a aussi un occupant dans ce monde qui oppresse ce monde, c'est le prince de ce monde, le diable. Et le chapitre 2 de Hébreux dit que Jésus est venu pour délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus dans l'esclavage toute leur vie. Alors, le titre le Christ, c'est aussi, et enfin, un titre chargé lié à son retour. Parce que les prophéties messianiques, que j'ai citées, mais très brièvement, en fait, elles sont loin d'avoir reçu tout leur accomplissement. Il y en a qui se sont accomplis en Christ, mais il y en a d'autres qui vont s'accomplir lorsque le Christ reviendra une deuxième fois. Ce que les prophètes ont décrit du royaume de Dieu est loin d'être accompli dans son ensemble. Quelqu'un avait écrit « Nous sommes dans le temps du déjà ». Il y a déjà beaucoup de choses qui se sont faites en Jésus. Et puis dans le temps du pas encore, il y a encore beaucoup d'autres choses qui vont se réaliser avec Jésus. Ce que nous attendons est infiniment plus glorieux que ce que nous pouvons connaître de mieux dans notre vie ici-bas. Vous savez, hier j'étais en train de préparer quelque chose qui me fait plaisir. Bon, je veux dire, je ne vais pas dire quoi, mais moi j'aime voyager, donc quelque part j'aime toujours être bien dans le voyage suivant. Et je préparais ça et j'étais content. Et tellement content qu'à un moment donné, avant je priais, à un moment donné, je me suis arrêté pour prier, pour préparer un peu pour aujourd'hui. Et c'est comme si Jésus me disait, et si je reviens maintenant, si je viens te prendre maintenant, est-ce que tu seras mieux que le projet sur lequel tu travailles? Question difficile. Je me dis, certainement que ça ne me ferait pas plaisir de perdre, je dirais, les choses auxquelles je suis attaché ici-bas. Donc je crois que j'ai quand même, c'est avec Dieu qu'on parle. Alors quand on parle avec Dieu, il faut être honnête, c'est de toute façon ce qu'il y a dans notre cœur. Mais je crois que j'aimerais mieux, oui. J'aimerais mieux partir. Je ne suis pas parti, ce n'était pas ce temps-là. Mais c'était intéressant qu'à un moment donné, il y ait ce dialogue qui venait. On est un peu comme le vieux Siméon dans le temple. Nous aussi, on attend le Messie Christ. Pas le Messie qui est venu une fois, le Messie qui revient, on l'attend. Mais en fait, on le connaît déjà, à la différence de Siméon. On connaît tous ce pourquoi il est venu. Siméon, il savait bien que le Messie devait venir délivrer son peuple, c'est tout ce qu'il savait. Mais nous, on sait qu'il est venu pour mourir, pour nous sauver chacun en particulier. Et on l'a rencontré, et par l'Esprit Saint, il vit en nous. Par l'Esprit Saint, il vit en nous. C'est ce que dit Paul aux Colossiens. Alors, on va terminer par un troisième aspect très brièvement de qui est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ le Seigneur. Jésus-Christ le Seigneur. C'est peut-être celui sur lequel nous insistons le plus. C'est le premier aspect, premier champ portait déjà la phrase Jésus Seigneur. Et vous savez, le terme Seigneur se dit en grec kurios. Alors, dans le monde grec des premiers temps de l'ère moderne, ce terme pouvait être utilisé pour plusieurs choses. Pas seulement pour parler du Seigneur que nous adorons, mais aussi pour parler d'une marque de référence envers un homme ou une femme. Je m'explique. Quand la femme samaritaine dans Jean 4 rencontre Jésus et qu'elle lui dit, elle lui parle, vous verrez dans le dialogue de l'Évangile, elle lui dit Seigneur, mais c'est comme si elle lui disait Monsieur, avec un certain respect. Quand Marie-Madeleine vient à la tombe et voit que Jésus n'y est plus et qu'elle voit ce qu'elle croit être le jardinier alors que c'est Jésus, elle l'appelle « Mais Seigneur, c'est toi qui as pris le corps, hein. Peux-tu nous dire où est le corps du Seigneur ?» Donc c'est Monsieur. Mais le plus souvent, curios désigne aussi celui qui détient une autorité légitime dans le domaine politique et social. Et dans le grec, on l'utilisait aussi pour mentionner des dieux ou des déesses d'autres religions. C'est pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens 8, versets 5 et 6, il fait cette mise au point. Il dit « Certes, bien des êtres célestes ou terrestres sont considérés comme des divinités, de sorte qu'il y a de nombreux dieux ou curios, seigneurs, mais pour ceux qui nous concernent, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui toute chose vient et pour qui nous vivons, et il n'y a qu'un seul curios, un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe, et par qui nous sommes. » Alors le problème qu'a eu l'Église chrétienne primitive, c'est justement que dans les premières ères après Jésus-Christ, on s'est mis très tôt à appeler curios l'empereur lui-même. Et donc depuis Jules César, les empereurs avaient été quelque part divinisés après leur mort, et même après de leur vivant, il y en a qui se sont dit, ben pourquoi pas, c'est bien plus pratique qu'on me vénère avant que je ne meure. Et donc ils se sont autoproclamés Dieu vivant. Et la religion impériale, c'était utile aussi dans un empire qui était devenu tellement grand, avec tellement de langues différentes, tellement de nations différentes, il fallait un élément unificateur. Et cet élément unificateur, c'était la religion impériale. Le problème, c'était pour les chrétiens, parce que quelque part, il fallait dire que César est Seigneur. César est Seigneur. Mais dans la confession chrétienne, il était mentionné, et les chrétiens répétaient, et nous le répétons chaque dimanche dans nos prières, dans nos chants, nous répétons Jésus est Seigneur. Et pour le pouvoir romain, c'était interprété comme une position hostile, bien sûr, et lourde de conséquences. Et c'est pour ça qu'il y a eu tellement de persécutions. Parce qu'un chrétien ne pouvait pas dire César est Seigneur et en même temps ne pouvait pas dire Jésus est Seigneur. Il y a un récit du martyr de Polycarpe de Smyrne qui nous est rapporté. Il est mort en plus ou moins en l'an 160. En fait, c'est un vieillard de 86 ans qui était lui-même un disciple de l'apôtre Jean, qui a vécu très vieux. Donc, vous voyez, c'est possible. Si vous regardez Jean qui avait vécu jusqu'à 90 ans et puis Polycarpe. Donc, 86 ans. Et il a eu un ministère remarquable, comme Jean, dans toute la province d'Asie mineure. Et puis, il a été à un moment donné arrêté et contraint de jurer, de confesser que César était Seigneur. Et le proconsul qui l'avait arrêté, ben, il avait honte, il savait bien que s'il ne le faisait pas, il allait être exécuté, martyrisé de manière assez effroyable, parce qu'il était brûlé, je crois. Donc je crois que l'image est derrière, oui, c'est ça. Et il lui dit, mais quel mal y a-t-il à déclarer César Seigneur, à sacrifier, faire quelques rites qui te sauveraient la vie ? Le magistrat romain se disait, mais il ne voulait pas, quelque part, en arriver à son exécution. Et Polycarpe a répondu, signant ainsi son arrêt de mort, il dit, je ne ferai rien de ce que vous me demandez. Je ne ferai rien. Il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul Jésus. Et le mot Seigneur n'est pas apparu subitement dans le Nouveau Testament. En fait, il est mentionné plus de 1000 fois dans l'Ancien Testament. Quand on prend la version des Septante, alors la version des Septante, c'est quoi ? C'est une traduction grecque de l'Ancien Testament, mais elle est intéressante, très intéressante, parce qu'elle a été reconnue officiellement comme une bonne traduction par le judaïsme 2 siècles avant Jésus-Christ. Donc, on peut vraiment considérer sa fiabilité dans la traduction grecque. Et les traducteurs de la version des Septante, ils utilisaient le terme « curios » pour traduire le mot hébreu « Adonai ». Et « Adonai », c'était le terme que les Juifs utilisaient lorsqu'ils étaient face au tétragramme Yahweh dans la Bible, qui est traduit dans nos Bibles par l'Éternel. Ils trouvaient que le nom de Dieu était tellement saint qu'ils, quelque part, n'osaient pas le prononcer. Et prononcer à la place le nom Adonai, le nom Seigneur. Et Seigneur, c'est le titre par lequel nous confessons notre foi dans la position de Jésus, à la droite du Père. Jésus, chef de l'Église. Jésus, le souverain du croyant que nous sommes, le berger. Nous sommes le troupeau que sa main conduit. Alors, ce n'est pas surprenant que le titre Seigneur soit utilisé le plus souvent, au huit parades, je dirais, dans nos prières, au huit parades de nos prières. Et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir. Je suis le premier à y penser parce que dans mes prières, je dis souvent Seigneur. Et la fréquence d'utilisation de ce titre, ça peut devenir un piège si on banalise ce titre saint au point d'en faire un titre de langage. Bien sûr, on ne va pas faire comme rajouter des règles. J'ai dit justement tout à l'heure que Le diable nous fait croire que nous devons former notre foi, notre piété dans des règles. Mais d'un autre côté, on ne peut pas banaliser, simplifier à l'extrême le nom Seigneur qui a été donné à Jésus. Et Jésus lui-même, il disait ceci, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Il l'a répété dans le sermon sur la montagne et dans Luc. Le terme « kurios », celui par lequel l'esclave s'adresse à son maître, ça implique une obéissance inconditionnelle. Et je dois y réfléchir. On va donc conclure. Trois aspects de la personnalité de Jésus qu'on peut retrouver partout dans la Bible, et pas seulement dans l'Évangile. La parole qui nous crée, la parole qui nous établit en tant qu'être humain, le Messie qui nous sauve, et le Seigneur qui nous libère. J'espère qu'avec ces quelques mots, votre esprit s'est ouvert dans un désir plus grand de connaître Jésus-Christ. C'est G.K. Chesterton, c'est un journaliste et défenseur du christianisme qui écrit beaucoup de bonnes choses, de citations qui nous sont restées. Il disait « Le but, dans le fait de garder l'esprit ouvert comme dans le fait d'ouvrir la bouche, c'est de le refermer sur quelque chose de solide. » Bien sûr, ce n'est pas le contexte de Dieu. Mais Jésus-Christ, c'est du solide. Essayons de refermer notre esprit sur cette triple vision de Jésus. Dans un livre qui s'appelle « The best is yet to be », donc le meilleur est encore à venir, Henri d'Urbanville raconte l'histoire d'une petite fille de Londres qui avait gagné un concours floral, une simple petite fille, avec une fleur merveilleuse qui avait poussé dans une vieille théière ébréchée, etc. Et on lui demandait son secret, comment est-ce qu'elle avait réussi à cultiver une aussi belle plante, hein, parce qu'elle avait mis la terre dans un grenier désaffecté, enfin, ce n'était pas du tout l'environnement, ce n'est pas un jardin magnifique. Et elle expliquait que si elle avait pu faire pousser une aussi belle plante dans un environnement aussi insolite, c'est parce qu'elle la déplaçait continuellement pour la garder toujours au soleil. Et c'est ça l'enjeu de notre vie en Christ. Demeurer en mouvement pour rester dans la chaleur et la lumière de Jésus. Alors j'ai bien conscience qu'il faudra plus que ce pauvre message pour que Jésus prenne une place plus importante dans nos vies. Mais le jeu en vaut la chandelle. Parce que Paul écrit dans Colossiens chapitre 2, les versets 3 et 10, il dit « En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et au verset 10 du même chapitre, il dit « Nous avons tout pleinement en Christ. » Ça veut dire qu'on n'a rien qui nous satisfasse en dehors. On a tout pleinement en Christ. Jésus, c'est la parole éternelle qui nous a établi comme un être humain aimé et voulu de Dieu. Je disais dans ma prière, et j'avais du mal à prier, puisque Benoît avait dit auparavant les mots que j'aurais voulu dire. Donc, je pensais en priant que, oui, on est les brebis, mais on est tous la centième. Si vous cherchez dans le troupeau, qui est la centième? C'est-à-dire la personne pour qui Jésus va tout abandonner, se mettre en route et chercher, même pendant la nuit, même pendant l'orage, pour la retrouver, c'est chacun d'entre nous. C'est chacun d'entre nous. Et ça, c'est la parole éternelle. Jésus nous a voulu, il nous a aimés dès le départ. Et puis, il est la dernière parole de Dieu, la chance ultime, définitive, de nous réconcilier avec lui. Et c'est pour ça que cette parole, elle a dû devenir le Messie. Elle a dû venir sur la terre. Il est ce Messie qui nous sauve, il est celui qui nous ramène à Dieu. Il est celui qui prend sur lui la colère, le juste châtiment de Dieu. Et parce qu'il est la parole créatrice parfaite, parce qu'il s'est fait Messie, il est devenu le Seigneur. Il a été établi Seigneur. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus le Seigneur, devant qui toute créature pliera le genou et confessera que Jésus est Seigneur. Et quand nous confessons, alors je voudrais juste vous poser une question. Dans ce processus-là, où en êtes-vous? Où en êtes-vous personnellement? On peut très bien servir Jésus sans le suivre. Ça veut dire qu'on peut très bien être arrêté à Jésus, parole créatrice, Jésus Messie qui me sauve. Mais ce n'est pas encore devenu Jésus le Seigneur. On peut très bien être bien avant cela. On n'a pas encore considéré que Jésus est tout cela pour nous. On n'a pas encore considéré le prix que nous avons à ces dieux. À quel point nous sommes aimés et voulus. Alors, je voudrais vous encourager à faire un pas plus loin. à déplacer votre pot de fleurs dans la théière pour demeurer dans la lumière, continuellement, à faire un pas en avant vers Jésus. Pas seulement une compréhension intellectuelle, mais pour demeurer en lui, comme le dit la parole de Dieu. Et quand on confesse que Jésus est Seigneur, on le fait face à toutes les prétendues seigneuries, à tous les déterminismes qui écrasent l'homme. On le fait face à tous les pouvoirs humains qui nous manipulent et qui réclament notre obédience. Quand nous confessons Jésus est Seigneur, nous confessons que tout pouvoir politique ne pourra pas nous apporter la satisfaction, ne pourra pas régner sur nous. Nous confessons face à toutes les puissances aussi occultes et religieuses qui font le siège de l'âme humaine. Jésus est Seigneur. La Seigneurie de Christ, en faisant de nous ses esclaves, elle nous procure une immense libération. Jésus Seigneur nous libère. Jésus Seigneur nous libère. Pourquoi ? Parce que nous sommes au Seigneur. Aucun autre Seigneur ne peut faire valoir ses droits sur notre vie. Parce que nous sommes au Seigneur. À Jésus le Seigneur. Il n'y a pas d'autre Seigneur qui peut régner dans nos vies. Et c'est pour ça que nous sommes libres. C'est pour ça que nous sommes libres. Quand on proclame Jésus est Seigneur, on attend avec assurance la manifestation de son retour, de son règne divin. Le Seigneur est proche, dit Paul dans Philippiens 4, 5. Alors, c'est une proximité dans le temps. Il va bientôt revenir. C'est souvent comme ça qu'on l'entend. Et en préparant ces notes, j'ai dit, le Seigneur est proche. Est-ce qu'il est proche de moi? Est-ce qu'il est à côté de moi? Est-ce que je peux parler avec lui comme un compagnon d'Emmaüs? Et qu'à un moment donné, il va ouvrir mes yeux. Le Seigneur est proche, c'est pourquoi nous sommes réellement libres. On va prier ensemble. Seigneur, j'espère ne pas avoir diminué le niveau de ce très beau moment de louange, Seigneur, profond et inspiré. Seigneur, en parlant de toi, Seigneur, je te prie que ce que nous puissions, moi aussi, Seigneur, grandir, avancer, Seigneur, dans la chaleur et la lumière de Jésus-Christ. Aujourd'hui, peut-être, est le jour où nous pouvons faire un pas, une prise de décision, confesser, Seigneur, que nous reconnaissons Jésus comme celui qui nous a créés, celui qui nous sauve et celui qui règne sur nos vies. Seigneur, nous pouvons confesser Jésus tel qu'il est et apprendre à marcher avec lui. Seigneur, je voudrais te prier pour que chacun d'entre nous, Seigneur, nous soyons conscients aujourd'hui d'avoir fait tous ces pas. Et si ce n'est pas le cas, Seigneur, de choisir de le faire, d'avancer dans la vie, d'avancer, de venir à Jésus pour avoir la vie. Seigneur, nous ne voulons plus refuser de venir à toi pour avoir la vie, en toi où, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Nous te rendons gloire, Seigneur, parce que tu règnes au-dessus de nous, et en nous, Seigneur. Amen.